13h-14h,
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. J'ai une mission, vous la connaissez, vous faire découvrir des hommes, des femmes qui font bouger les choses en France. Ils sont acteurs dans leur entreprise, leur association, leur ville. Et c'est eux qui ont la parole tous les jours sur Europe 1. Aujourd'hui, gros plan sur les alternatives aux pesticides. C'est fini depuis le 1er janvier, mais des Français ont planché sur des solutions naturelles de remplacement. Et vous allez voir qu'il y en a. Ils fabriquent des lunettes depuis 130 ans déjà dans le Jura. Jules Beau est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et pour ne pas jeter leur tenue polluante à la poubelle, les pompiers du Berry ont la solution, ils recyclent en isolant. C'est ça, la France qui bouge, et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
Vous le savez, hein, depuis le 1er janvier, c'est terminé, c'est interdit. Ces produits n'ont plus le droit d'être utilisés désormais. Alors, eh bien, les spécialistes du secteur se sont évidemment creusés les méninges et ont trouvé des solutions beaucoup plus propres. Vous allez le voir, on va les découvrir ensemble dans un instant pour accueillir nos invités à mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth Assayag, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Laurent Chauin qui quitte momentanément son costume de DRH Monde de Mazars. Il adore quand je dis ça pour poser ses valises dans le studio d'Europe 1. Bonjour Laurent.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Stéphane Dalluin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes
le
responsable du développement durable chez Botanique. Ça fait 11 ans, hein, je crois, que vous êtes dans cette entreprise qui est dirigée par la famille Blanchet. Le groupe lui appartient, je crois, depuis 2003, même un peu avant. Et depuis 2003, ils ont commencé à réfléchir à la problématique des pesticides, c'est ça?
Alors Botanique, en effet, c'est une entreprise familiale, c'est important de le dire, hein, qui a été créée par des horticulteurs. C'est la troisième enseigne de jardinerie en France, avec 70 magasins. Et en effet, quand Luc Blanchet a succédé à son père et a pris les rênes de l'entreprise en 2003, il a impulsé un certain nombre de nouvelles directives. Et en 2005, il a souhaité formaliser une politique de développement durable et de vraiment faire rimer nature et jardin, puisqu'il ne faut pas se cacher, depuis les années 80, la jardinerie, je caricature, mais c'était un peu le temple des produits de synthèse.
Dites-moi, pourtant, à l'époque, il y avait dans vos magasins, chez Botanique aussi, du Roundup, hein, puisque c'est quand
tout
même globalement de lui qu'on est en train de parler. C'était, je suppose, un chiffre important pour les magasins, les vôtres, mais aussi ceux de la concurrence. Du coup, quand on décide de faire sans lui, ça fait un sacré trou, je suppose, dans la trésorerie et dans le chiffre d'affaires.
Ça a fait, en effet, mais d'abord, il y a eu une prise de conscience. Et ça, c'est important de le dire, puisque donc 2005, oui, on commençait à avoir un certain buzz autour de la problématique des pesticides, mais c'était très loin d'être ce que c'est aujourd'hui. Et on avait en fait identifié un homme qui s'appelle François Veyrette, qui dirige une ONG.
Génération Future.
Voilà, qui s'appelait à l'époque MDRGF. Et puis, on a un peu fait entrer le loup dans la bergerie.
Donc vous lui avez dit, venez avec nous,
voilà,
et venez réfléchir à comment on fait autrement.
Déjà nous rencontrer à l'époque, de rencontrer nos dirigeants. Et puis, on va dire que François nous a un peu retourné le cerveau. Avant ça, il nous a proposé de travailler sur une étude d'évaluation de toutes les matières actives des produits qu'on avait dans nos magasins. Étude écotoxicologique et toxicologique. Et il a mis à peu près 6 à 8 mois à travailler sur cette étude d'évaluation avec des protocoles, hein, bien précis. Et puis il y a eu une restitution en 2006, printemps 2006, en comité de direction. Je dirais là, les chaussettes de mes dirigeants sont toutes tombées là. Puisque en gros il y avait différentes catégories de 1 à 6 et la catégorie 1 étant les plus problématiques et donc sur 135 molécules il y en avait plus d'une centaine qui étaient réellement problématiques à la fois pour la santé et l'environnement, donc en gros il nous en restait une dizaine qu'on pouvait vendre.
Du coup c'est là que vous décidez de mettre les produits dangereux sous clé?
Du coup, d'abord, il y a eu grosse surprise. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a réfléchi avec François Veyrette et on s'est dit, bon, on va prendre la chose en trois étapes. Donc la première, c'est en effet de mettre les produits les plus problématiques par rapport aux catégories qu'on avait fait derrière le comptoir ou derrière des vitrines, donc plus en libre service, dont le fameux Roundup, et bien d'autres produits. En parallèle, on s'est dit il faut expliquer aux collaborateurs en magasin, puisque quand même nos collaborateurs en magasin, ils ont tous été formés dans des écoles ou comme beaucoup de gens, voilà, à des pratiques conventionnelles. Et donc, on a travaillé avec un centre d'agroécologie et on a travaillé sur de la pédagogie et de la formation.
Alors, je vous interromps parce que je voudrais qu'on dise quand même aux auditeurs qui nous écoutent, Elisabeth, ce qu'elle interdit précisément, cette loi qui est entrée en vigueur le 1er janvier.
Exactement. Donc, depuis le 1er janvier, les particuliers et les jardiniers amateurs ne peuvent plus utiliser de pesticides de synthèse comme le glyphosate, fini le Roundup, fini les fongicides et les pesticides de synthèse. L'interdiction, elle, se limite aux particuliers et aux collectivités. Donc, c'est-à-dire ça se limite à 10% environ du marché. Hein. Le reste des ventes concerne l'agriculture où les pesticides chimiques, eux, sont encore autorisés. Les produits devront faire l'objet d'une autorisation de mise en vente sur le marché et affiner la mention EAJ autorisée dans les jardins. Donc, c'est assez précis.
Que dit notre coach, Laurent Choin ?
Il y a quelque chose qui est frappant pour moi, c'est qu'au moment où Botanique a pris ce virage, vous ne l'avez pas fait parce que c'était la mode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des grands concurrents, même la grande distribution, je ne veux pas citer d'enseignes, mais qui ont des départements spécialisés, vont vers ça. Est-ce qu'il faut être un challenger pour prendre ce genre de décision ? Parce que finalement, ce n'était pas une décision de business, ce n'est pas parce que c'était bon pour le business, d'ailleurs vous en avez souffert initialement, mais parce qu'il y a eu une sorte de conviction. Donc pour les gens qui ont envie d'aller vers ce genre de démarche, est-ce que c'est possible aussi quand on a un leader, ou est-ce que c'est parce que vous étiez un challenger que vous avez pu le faire ?
Stéphane Delvaux.
Alors, on n'était pas un leader à l'époque sur le marché. Enfin, on fait partie des grandes enseignes, on n'est pas la première. Mais en effet, par rapport au mot conviction que vous citiez, c'était vraiment ça. C'était que si on
c'était
veut
un pari
aussi, mais une conviction que si on veut parler de développement durable dans l'univers du jardin et de la jardinerie, c'était clairement le premier chantier à mener. Et on était tellement sûr qu'il fallait passer à la jardinerie naturelle qu'on n'a même pas consulté nos clients à l'époque.
Oui, puis vos fournisseurs, ils vous ont carrément dit, vous allez mettre la clé sous la porte si vous faites ça. Vous avez même perdu, et Laurent le disait, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2008 quand vous y êtes passé.
C'est vrai, c'est exact. Et en effet, on a un peu jeté le pavé dans la mare de l'univers des jardineries, de la distribution. Mais bon, on l'a assumé. Et ce qui était l'enjeu, c'était surtout, encore une fois, de convaincre les équipes dans les magasins, parce que Botanique, c'est quand même 2000 personnes, et ok, vous avez au niveau de la tête de l'entreprise absolument convaincu, mais il fallait aussi convaincre tous les collaborateurs. Et là, ça nous a pris 3 ans, c'était 30 000 heures de formation auprès de toutes les équipes. On a emmené les équipes dans un centre d'agroécologie terre vivante dans le 38, près de Grenoble, en Isère. Et là, on a pu emmener tout le monde, et ça, c'était absolument fondamental de pouvoir emmener toutes les équipes dans cette démarche.
Et manifestement, ça fonctionne puisqu'aujourd'hui, c'est 65 magasins et le chiffre d'affaires, il est supérieur à celui que vous faisiez évidemment il y a 10 ans. On va continuer à parler justement de cette interdiction et des solutions qui s'offrent à nous aujourd'hui dans un instant sur Europe 1. Il est 13h09.
Europe 1.
Le phytosanitaire, c'est le credo de Solabiol qui a rajouté évidemment le bio, vous l'entendez en plus dans son savoir-faire. A tout de suite sur Europe 1. Vous écoutez La France Bouge, le meilleur de La France Bouge jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin. On s'intéresse aujourd'hui aux alternatives aux pesticides. Les Français ont planché dur sur des solutions naturelles. C'est possible de fabriquer des produits phytosanitaires bio et de le faire chez nous, ici en France. La preuve avec SBM. Bonjour Denis Jardel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur technique chez SBM Life Science. SBM, oui. C'est depuis 1994 une entreprise familiale qui a lancé une gamme que les jardiniers connaissent. Évidemment, Solabiol, avec des produits naturels, 100% naturels, des engrais naturels. Comment on fait, dites-moi, pour bannir le chimique ? C'est juste une question, comme on disait tout à l'heure avec Stéphane Delvaux, une question de volonté, de conviction ?
C'est tout à la fois. Je pense que c'est tout à fait naturel que dans un jardin, on utilise des produits naturels. Le fait de jardiner, c'est se rapprocher de la nature. Donc Solabiol, dès le départ, on s'est dit, alors qu'on était vraiment pionnier dans le domaine, puisque Solabiol, on l'a développé depuis 2001, on s'est dit, et il faut qu'à la fois au niveau de la fertilisation, donc les engrais, qu'au niveau des traitements, on apporte des solutions naturelles, efficaces, naturelles, pratiques d'utilisation pour le jardinier amateur. Donc c'est vrai qu'on était un peu, même vraiment précurseurs dans le domaine,
Donc on revient au jardinage de papa, quoi, en quelque sorte.
Alors, oui et non. Parce que justement, on pourrait dire, ah, c'est un retour en arrière. Mais pas du tout. On a des moyens actuellement que nos grands-parents n'avaient pas. Hein, on a des moyens de détection, des moyens de diagnostic. On a des nouveaux produits, comme par exemple des médiateurs chimiques qui permettent d'attirer un insecte bien précisément dans un piège, donc qui sont hyper sélectifs. On a des produits à base de bactéries, comme le Bacillus thuringiensis. On a des stimulateurs de défense naturelle. Donc là, le stimulateur de défense naturelle, c'est vraiment en amont. On apporte à la plante des produits qui vont déclencher chez elle ces mécanismes de défense. Finalement, le jardinage au naturel, c'est utiliser les forces de la nature, c'est la définition du biocontrôle, pour maîtriser les bioagresseurs.
Ça veut dire qu'on fait du chimique, mais avec du naturel. Du chimique naturel à base de végétal, animal ou minéral, hein, c'est ça.
Vous faites bien de parler du mot chimique, parce que finalement, c'est très facile d'opposer le terme synthèse à naturel, mais en fin de compte, tout ce qui nous entoure, que ce soit minéral ou organique, est régi par des molécules, par des atomes. Donc finalement, tout ça, c'est de la chimie, mais c'est de la chimie naturelle, c'est de la chimie qui existe depuis X millions d'années, d'ailleurs.
Ça veut dire que moi, si j'ai envie de faire un traitement dans mon jardin, jusqu'à présent, je me retrouve dans les rayons des grandes surfaces, des jardineries, et je ne sais pas forcément faire la différence quand il y a écrit chimique. Vous l'écrivez, vous marquez bio dessus, déjà une indication.
Alors, on n'écrit pas bio, on écrit utilisable en agriculture biologique, ou bien on utilise le terme biocontrôle. Hein, parce que ce ne sont pas des produits qui sont issus de l'agriculture biologique. Par exemple, nos engrais, les matières premières ne sont pas issus de l'agriculture biologique. Par contre, ils sont utilisables en agriculture biologique ou ils rentrent dans la catégorie des produits de biocontrôle. Et où ? Donc, il y a un moyen de repérer. Et puis, il y a aussi la marque. C'est-à-dire que dès lors que la marque Solabiol, dans Solabiol, il y a le soleil, il y a biol, biologique. Donc, on voit que ça touche la nature, ça touche le vivant.
Elisabeth, vous avez trouvé, je crois, pas mal d'alternatives, hein, des solutions naturelles.
Il y en a depuis longtemps. Par exemple, dans les magasins spécialisés, on recense jusqu'à plus de 600 alternatives naturelles. Par exemple, alternative au glyphosate, il y a l'acide perlagonique qui est utilisé beaucoup dans les désherbants naturels. C'est de l'extrait de géranium et c'est une molécule qui est naturelle et qui respecte le sol. Pour traiter, les maladies sur nos plantes, il y a des solutions de grand-mère qui existent depuis des années, comme la bouillie bordelaise, qui n'est autre que du cuivre, parce que le cuivre, il a des super pouvoirs pour éliminer les champignons présents sur des plantes, ou encore pour traiter les pucerons. Il y a le pyrèthre végétal, qui n'est rien d'autre que de l'extrait de fleurs de chrysanthème.
Vous saviez tout ça, notre coach Laurent Choin ?
Je connaissais les tisanes, mais non, j'avais pas le cuivre et la bouillie bordelaise. Là, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, j'ai peut-être une question sur l'entreprise, au-delà d'ailleurs du produit ou de votre activité. Vous êtes un petit qui a racheté un gros. C'est assez intéressant parce que finalement, vous êtes allé chercher. Vous avez repris de Bayer, je crois. L'activité jardin. Est-ce que. On pourrait poser la question de pourquoi vous l'avez fait, mais pourquoi eux vous l'ont vendu ? C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire aujourd'hui que quand on est un gros acteur comme ça, on ne peut pas aller sur ces terrains-là parce que ça met en danger le business model, ça met en jeu des choses
pas forcément, je pense que c'est des choix stratégiques. L'activité jardin chez Bayer, c'était peanuts, on va dire. Alors que pour nous, ça nous permettait d'accéder à tout un tissu commercial, toute une force de vente, toute une organisation au niveau européen et aussi au niveau des USA. Et du Canada.
Et cette intégration est un succès aujourd'hui pour vous ?
Total. Alors, c'est vrai qu'on continue encore d'arriver à comprendre comment on peut travailler tous ensemble, parce que c'est vrai qu'il y avait une culture de la chimie de synthèse.
Différente, oui, bien sûr.
Alors que nous, on a une culture ancrée depuis X années. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le domaine du jardinage au naturel. Mais ça se passe très bien. Et là, ça nous permet justement d'avoir un rayonnement beaucoup plus important et de pouvoir accéder à des molécules de biocontrôle que peut-être si on était resté franco-français... auxquels on n'aurait pas eu accès.
Stéphane Dalluin, justement, Solabiol, les produits comme ça, naturels, c'est quelque chose qu'on vient aujourd'hui ou qu'on venait déjà, il y a quelques années, vous demander dans les allées de botanique ?
Alors, la marque Solabiol est présente chez nous depuis de nombreuses années. Ils ont été pousser, porter, évidemment, lorsqu'on a retiré tous les produits de synthèse, parce qu'il y a eu tout un travail de fait pour... parce qu'on n'était pas en 2019 à l'époque. Hein,
c'était, on était plus, en 2008.
Oui,
hein,
il y a, oui. Voilà, il y a 10 ans, plus de 10 ans. Et donc, l'offre, la recherche en termes de produits en phase avec le jardinage naturel n'était pas aussi conséquente qu'aujourd'hui. Et puis, il n'y avait pas cette loi qui a quand même, il faut le dire, poussé les fabricants à devoir accélérer la recherche sur ce que j'appelle moi la chimie verte. Et donc oui, on a toujours les produits Solabiol, la gamme s'est développée depuis dans nos magasins et on a d'autres marques et nous on est à 800 solutions, pas à 600 mais à 800 solutions Bravo. Alternatives pour jardiner au naturel, donc il y a vraiment une offre
qui dit mieux
une offre qui se développe en tout cas et qu'on va être obligé d'adopter hein, aujourd'hui puisqu'on n'a pas le choix, c'est entré en vigueur au 1er janvier. On continue à parler de cette interdiction justement sur Europe 1.
Il est 13h20.
Europe 1.
Et si on laissait carrément faire la nature pour remplacer le chimique de synthèse, pourquoi ne pas faire appel par exemple aux insectes ? On en parlait. À tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à 14h, vous écoutez La France bouge et on s'intéresse aujourd'hui aux alternatives aux pesticides parce que depuis le début de l'année, il est interdit pour les particuliers d'utiliser des pesticides. Une loi est entrée en vigueur, mais il existe des solutions naturelles déjà dans la nature, Raphaël Duchemin.
Ce qui est certain, c'est que la nature est très bien faite et qu'on a parfois tendance à l'oublier. Aujourd'hui, c'est donc un retour, on peut le dire, hein, à cette nature qui est en train de s'opérer, y compris dans nos manières de fonctionner au jardin. Bonjour Thierry Micalet.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Merci. Vous dirigez le marché des produits de biocontrôle auprès du grand public chez Bioline AgroScience. Vous produisez ce qu'on appelle des biosolutions, c'est-à-dire que vous utilisez notamment les insectes pour faire le nettoyage du jardin par eux-mêmes.
Oui, tout à fait. En fait, le Bioline AgroScience, en fait, qui fait partie du groupe agricole InVivo, est chargé de développer en fait des solutions de biocontrôle pour la protection des cultures contre les insectes ravageurs. Et dans ce cas-là,
en le fait, biocontrôle, on va expliquer. Hein, oui, c'est tout simplement la nature qui se contrôle toute seule.
On reproduit des mécanismes naturels, soit par des macro-organismes que sont les insectes, les micro-organismes, virus, bactéries, tout ça, ou on l'a dit tout à l'heure aussi, certaines substances qui reproduisent en fait ces mécanismes naturels. Et donc nous avons pris le parti de le faire en développant toute une gamme de produits autour des insectes prédateurs.
Alors, il y a deux types d'insectes de grande famille, j'ai envie de dire. En tout cas, on peut les diviser comme ça. Il y a les prédateurs qui vont pouvoir s'attaquer aux insectes qui dévastent les cultures ou tout simplement notre plantation de tomates hein, dans le jardin. Et puis, il y a ce que vous appelez l'insecte auxiliaire qui, lui, va venir parasiter, il est plus malin, les œufs des insectes ravageurs.
Alors oui, en fait, il y a deux modes d'action. Donc là, on a tout un département de recherche et développement. Et donc, puisque nous sommes à peu près 100 salariés, il y a 20 personnes qui s'occupent de ça, puisqu'en fait, il va falloir en fait, observer dans la nature ce qui se passe. Schématiquement, vous avez deux méthodes de prédation. C'est soit directement, on va parler par exemple des larves de coccinelles ou les coccinelles qui vont directement aller manger le puceron. Ou alors, vous pouvez avoir des insectes comme les trichogrammes, qui sont des micro-guêpes. Alors, vous pouvez vous rassurer, ce ne sont pas des guêpes qui piquent, mais qui vont tout simplement aller parasiter, par exemple, l'œuf de la pyrale du buis, qui a été un ravageur extrêmement important avec une très forte pression, et qui va parasiter, en fait, l'œuf de la pyrale et qui va complètement neutraliser. Donc, en fait, on a schématiquement ces deux méthodes de prédation.
Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Je peux commander mes insectes ?
Alors, en fait, on est dans le vivant, donc c'est là aussi il va y avoir un changement culturel aussi pour nos jardiniers. C'est le fait de en fait en magasin on a lancé en fait un principe de carte prépayée. Donc vous achetez en fait en magasin une carte prépayée sur laquelle vous avez diverses solutions en fonction du type de ravageur auquel vous allez faire face. Et ensuite nous directement au travers d'un site qui s'appelle Mes Insectes à domicile, il y a un code, vous vous identifiez et on envoie directement en fait l'insecte chez vous. Parce que les insectes ont des durées de vie assez courte, donc il faut s'assurer d'avoir une matière et des insectes bien mobiles et efficaces.
On en parle beaucoup aujourd'hui, mais ça fait quand même 10 ans que vous développez ça, que
alors, ça
que
fait
vous êtes
même
sur ce marché-là.
Plus de 10 ans que nous sommes
en
sur
tout cas,
ce marché-là.
Ces produits-là sont lancés.
Oui, tout à fait. Donc la marque s'appelle Biotope, puisque Biotope fait référence justement à cet équilibre en fait, biologique des jardins. Et en fait, nous avons développé ça en fait, depuis plus de 30 ans aussi en agriculture. Et ça va pas
parce qu'au départ, c'était pour les agriculteurs.
C'était pour les agriculteurs, et ça va même vous paraître paradoxal, c'est pour les agriculteurs de l'agriculture conventionnelle. Aujourd'hui, en fait, il faut aussi être certain que cette troisième voie peut être lancée où, même en agriculture conventionnelle, on peut utiliser ces solutions biologiques.
Que dit notre coach ?
comme disait Patrick Timsit, les guêpes, elles vous piquent pas, elles vous dévorent carrément.
Oui.
Non, en fait, c'est marrant. Je lisais votre. Il paraît qu'il y a des larves, par exemple, qui dévorent les araignées rouges. Et en fait, c'est un peu le même principe que les nanotechnologies, finalement. C'est-à-dire, je suppose que les nanotechnologies sont copiées de ça, mais est-ce que d'ailleurs c'est quelque chose qui...
Alors, on n'est peut-être pas... Alors, nous sommes dans le monde de l'infiniment petit.
Ouais.
Un gramme d'œuf, puisque nous produisons aussi en fait de la nourriture pour pouvoir élever ces insectes, un gramme d'œuf, vous avez 36 000 œufs dedans. Donc, on est vraiment dans le monde du petit. En ce qui concerne donc les araignées rouges, on développe aussi en fait qui sont des acariens, en fait. Ben, on va développer tout simplement les acariens qui sont prédateurs de ces acariens,
qui
se mangent même entre eux.
Et qui est génial, c'est qu'une fois qu'elles n'ont plus d'araignées à dévorer, elles meurent.
Oui, c'est là où on intervient en fait. Ouais, c'est autodestructeur et c'est là où en fait on va insister sur ce développement de la biodiversité. En fait, on est sur des phénomènes naturels. Donc, quand le prédateur n'a plus de ravageur, eh bien, lui va mourir, va disparaître et va lui-même nourrir ensuite l'ensemble des micro-organismes qui sont dans le sol. Donc en fait, on va entretenir et développer ce biotope. Il est très important d'insister sur ce développement de la biodiversité.
Elisabeth, il y a une solution dont on n'a pas parlé mais qui est importante, qui est très utilisée, qui est aussi un produit phare du jardinage écologique pour nos parcelles. Hein, je crois.
Mais oui, et c'est le paillage. Tout le monde, enfin, j'espère, connaît, si on s'intéresse un tout petit peu au jardinage, le paillage. Le paillage, c'est le réflexe, paraît-il, à avoir pour obtenir un jardin naturel en bonne santé. C'est quoi ? Ben, ça peut être des feuilles mortes, ça peut être de la paille coupée ou hachée, des copeaux de bois, des écorces de pin aussi maritimes. Et donc, on en trouve partout. Et c'est pour recouvrir le sol du jardin. C'est la première solution naturelle.
Ouais, vous confirmez ?
Oui, tout à fait. Il faut savoir que dans la nature, le sol, il n'est jamais à nu. Hein, quand vous vous promenez, il y a toujours une litière végétale, ou alors les rares régions où il y a des sols à nu, bah c'est les déserts. Quand le sol est à nu, le sol va souffrir, parce qu'il y aura les rayons du soleil qui vont l'impacter, il y aura un effet d'érosion par la pluie. Or, le sol, c'est vraiment le tube digestif de la plante. Nous, chez Solabiol, on essaye de faire passer ce concept. Nourrir la plante, c'est avant tout nourrir le sol. Et du coup, ce paillage constitue vraiment une peau de protection pour le sol avec une multitude de vertus.
Et exactement.
Entre autres, c'est une alternative au désherbage, finalement. Parce qu'un sol qui est couvert, les mauvaises graines de mauvaises herbes, entre guillemets, vont pas pousser.
Et oui, elles sont étouffées par ce paillage. On reste ensemble et on va accueillir des auditeurs dans un instant.
Il est 13h27.
Europe 1.
Comment faites-vous sans les pesticides chimiques au jardin ? Venez témoigner et posez aussi vos questions à nos invités. A tout de suite sur Europe 1.
Jardiner au naturel. Des Français ont trouvé des solutions pour pallier le problème des pesticides chimiques. Et on retrouve tout de suite Raphaël Duchemin et ses invités. Vous écoutez La France Bouge sur Europe 1.
Nous sommes avec Stéphane Dalluin, responsable du développement durable chez Botanique. Denis Jardel, directeur technique France chez SBM Life Science, qui commercialise notamment la marque Solabiol. Et avec Thierry Micalet, chef de marché des produits de biocontrôle grand public Biotop chez Bioline AgroScience. À mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth Assayag et notre coach aujourd'hui, Laurent Chauhin. Je vous ai promis des appels, il y en a. Nous avons Joël qui nous a déjà téléphoné au 3921. Bonjour Joël.
Oui, bonjour Europe 1.
Alors vous n'utilisez plus de produits chimiques, je crois que ça fait déjà un petit moment.
Oui, depuis 2005, suite à c'est un problème de santé. Disons que je n'avais plus la possibilité de... physiquement, de passer les produits, ce qui fait que depuis 2005, notre pelouse, que nous voulions superbe comme tout le monde au début, est redevenue un pré comme à l'origine. Voilà.
Et comment est-ce que vous avez fait alors pour enlever ces produits chimiques ? Qu'est-ce que vous avez mis à la place ?
Rien du tout. Rien du tout. On a laissé faire la nature. On a essayé quelquefois le mélange vinaigre blanc et gros sel. Mais c'est vrai que, c'est efficace. Mais c'est vrai que si tout le monde le fait, ça change la salinité des cours d'eau après. Et ça peut également devenir un problème.
Donc, du coup, les hérissons sont revenus.
Ah oui, non, mais il n'y a pas que les hérissons. Je vous dis, j'ai eu un gilet jaune sur la terrasse. Trois nuits de suite, j'ai eu une salamandre qui était présente sur ma terrasse. On a eu des phasmes, des menthes. Mm-hmm. Et franchement, je ne les avais jamais vues auparavant. Et là, nous avons eu une... c'est vrai que sur la commune de Pontchâteau, nous avons une grenouille arboricole qui est en voie d'extinction, qui depuis quelques années refait un petit peu surface. Et là, du elle coup,
elle se sent bien chez vous, manifestement, Joël.
Elle a squatté mon chèvrefeuille.
Bon, c'est ça aussi, hein, finalement, le retour à la nature, c'est voir revenir des espèces qui, du coup, avaient fui certains jardins.
Oui, c'est favoriser la biodiversité, en fait. C'est là où l'équilibre est très important, en fait, dans les jardins. On doit repasser à une étape d'observation. Alors, le monsieur parlait de gilets jaunes, mais il existe, par exemple, des méthodes, alors qu'on appelle de piégeage, qui permettent de compter, en fait, et d'observer quel va être l'insecte, entre autres, l'insecte ravageur, et donc pour pouvoir mettre la solution en place. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment aller, il faut vraiment changer de logiciel et réobserver ce qui se passe dans
son jardin.
Voir
le jardin en fait comme un écosystème vivant où tout peut se réguler. Oui. Par contre, si je peux me permettre, il faut quand même faire attention aux recettes qu'on voit sur internet, mettre de la javel, du sel, etc. Parce que ça peut avoir des effets encore pires que les produits de synthèse.
Hein. Alors justement, j'ai Anthony qui nous dit: j'ai une solution pour éviter le fameux Roundup. Je mélange du vinaigre blanc avec du bicarbonate de sodium et du gros sel. Une solution économique et efficace, facile à manipuler en plus, parce que ce sont des produits ménagers inoffensifs. Sur le mot inoffensif, vous êtes d'accord, Denis Jardel?
Savoir, par exemple, le sel de cuisine, on l'entend très souvent.
Ça ronge,
non? Ça peut être toxique. Non, mais ça peut être toxique, ne serait-ce que pour notre alimentation. Hein. Les messages, ils sont très nombreux. Attention, mangez pas trop salé.
Et c'est pareil pour les plantes.
Mais complètement, encore plus pour les plantes. Hein. Donc, il faut vraiment pas du tout aller vers ces recettes un peu cocktail détonnant, qui ont un impact sur l'environnement, qui sont bien plus importants que d'autres produits, à la limite, qui ont disparu. Hein, le sel de cuisine, ça présente une toxicité.
Vous avez tous les trois été pionniers, justement, sur ces interdictions. Hein. Vous avez pris les devants. Est-ce que vous constatez aujourd'hui un vrai développement de vos activités? Est-ce que vous en tirez les bénéfices, si je puis dire, Stéphane Dalluin?
Là, maintenant qu'il y a la loi Labbé, de toutes les façons, voilà, c'est tout le monde doit se mettre au jardinage naturel. Bon, c'est juste que je trouve que les pénalités pour le pauvre jardinier amateur, s'il se fait avoir en mettant du Roundup dans son jardin, ça va jusqu'à 150 000 euros d'amende et ça peut aller jusqu'à 6 mois de prison. Hein.
Mais vous pensez vraiment qu'ils vont aller vérifier dans chaque jardin?
Je ne pense pas. Mais d'ailleurs, même pour en avoir discuté avec Joël Labbé, m'a dit qu'il allait voir dans les décrets, les ordonnances, etc., pour que ce soit allégé, parce qu'ils sont quand même allés un peu fort. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, tout le monde va de toutes les façons vers le jardinage naturel. Mais quand même, depuis un certain nombre d'années, on sent qu'il y a un mouvement de société sur plus de naturel, mieux s'alimenter, mieux jardiner, etc.
Même question pour vous, Denis Jardel.
Je confirme avec la marque Solabiol. Au départ, c'est-à-dire en 2001, on était vraiment pionniers, on était tout petits. Actuellement, on est devenus les leaders en France sur le créneau engrais, produits de traitement, sur le marché spécialisé, jardinerie, libre-service agricole, grande surface, bricolage. Le chiffre d'affaires des produits naturels de biocontrôle a été multiplié par 4 en 10 ans.
Ça va venir. Thierry Micalet, même chose.
Même chose, donc leader français au niveau donc de la production de ces insectes prédateurs. Mais en même temps, il est très important de dire que les solutions que nous proposons, en fait, rentrent dans un cadre réglementaire. Donc elles prouvent leur efficacité et leur innocuité. Quoi. C'est pour ça, là, je rejoins mes collègues sur les recettes un petit peu de grand-mère qui peuvent avoir des impacts assez importants. Donc il est très important quand même de rester en fait sur des produits qui ont été éprouvés en fait entre autres nous en ce qui nous concerne, en plus avec l'aide de des agriculteurs. Voilà.
Merci à tous les trois d'être venus nous montrer qu'il y a des solutions déjà et qu'elles sont françaises. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Il est 13h36.
Europe 1.
Elle existe depuis 130 ans, elle est née dans le Jura, Jules Beau, et l'entreprise qui va bien, merci, c'est dans un instant.
Sur Europe 1. La France bouge, se poursuit jusqu'à 14h avec à présent une entreprise qui va bien, Raphaël Duchemin.
Cette entreprise, c'est Jules Beau. Elle fabrique des lunettes depuis 130 ans. Bonjour Christophe Beau.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. À mes côtés, Elisabeth Assayag. Face à vous, notre coach Laurent Chauin, DRH de Mazar. Vous êtes, vous, le PDG de cette belle entreprise qui est née dans le Jura. Racontez-moi comment est-ce qu'elle débute avec un Jules Beau, sauf qu'il y a un E en moins à l'époque.
Tout à fait. C'est un monsieur donc de son nom Jules Beau qui a donc fondé sa société en 1888 dans la vallée de la Lunette dans le Jura, Morée, et qui a débuté donc à fabriquer un petit peu comme tous ses collègues des lunettes, des pince-nez, c'est ce qui se faisait à l'époque.
Oui, c'est ce qu'on faisait le soir, hein, souvent, dans la région.
Le soir, parce que... dans les cuisines. C'était beaucoup de travail à domicile. Et puis, rapidement, il s'est un peu différencié de ses concurrents. Il a fabriqué des lunettes pour les tailleurs de pierre.
Et donc, des lunettes de spécialité.
Tout à fait. Plutôt lunettes type protection, on va dire. Tailleurs de pierre, également cristalliers, pour les gens qui allaient dans les Alpes chercher les cristaux de roche. Donc voilà. Et puis ensuite, gentiment, ça s'est développé sur les lunettes de montagne. Dans les années 40-50, où la société s'est spécialisée dans la fabrication des lunettes glaciers, comme on appelle. C'est-à-dire, c'est des montures en métal, métallique, avec des protections latérales en cuir.
Et alors là, vous arrivez, votre famille arrive, votre père, dans les années 70, le même nom, hein, c'est du coup une coïncidence. Vous prenez les rênes, vous, un peu plus tard, avec votre frère, Mathieu. Comment est-ce que vous rentrez dans l'aventure ?
On rentre dans l'aventure, j'allais dire, presque par défaut. Parce que c'est vrai que l'un comme l'autre, on n'avait pas véritablement de projet de carrière. On n'a pas fait non plus de très grandes études. Et donc, notre père nous a, il faut dire aussi, beaucoup encouragé à venir le rejoindre et puis lui donner un coup de main. Au début, c'était un peu ça, parce que l'entreprise était petite, peu de moyens. Donc, il a besoin de nous. Donc, on l'a rejoint dans les années 70 pour venir l'épauler. Et puis, on a eu la chance, il nous a laissé beaucoup d'autonomie assez rapidement. Et puis ensuite, on s'était attaché à développer un petit peu tout ça.
Oui, développer, c'est le mot, hein, parce que vous êtes encore plus spécialisé dans la lunette. Alors au départ, c'était la lunette de glacier, puis dans la lunette de sport, la lunette d'innovation aussi. Vous avez commencé à travailler avec des sportifs. Vous le faites de plus en plus. On va peut-être citer presque un voisin, hein, avec Martin Fourcade.
Oui, tout à fait. Tout
et
à fait.
Puis Armel Lecléache aussi.
Aussi, bien sûr.
Ils font un gros travail avec vous, un retour d'expérience sur les lunettes. Vous
énorme.
Dites ce qu'il faut
énorme.
Améliorer, ce qu'il
c'est
faut changer.
Ce que les athlètes apprécient particulièrement chez Jules Beau, c'est la proximité. C'est une des valeurs principales de l'entreprise, avec ses salariés comme avec ses athlètes. Et donc, c'est vrai qu'ils participent réellement au développement des produits. Régulièrement, on organise des focus group par discipline. Et on reçoit un petit peu leur retour d'expérience, les critiques sur les produits. Et ça nous fait réellement avancer. Ils échangent avec les designers, le bureau d'études. Enfin, c'est vraiment tout un travail vraiment de proximité.
Le coach, Laurent Choin ?
On a un point commun entre Mazars et Jules Beau, c'est qu'on vit dans un monde dominé par des géants. Vous, c'est Sealer, Luxottica, des gens comme ça. Alors j'ai vu 10-12% de marketing. Ça, c'est la condition pour pouvoir exister, survivre.
C'est une condition absolument essentielle. C'est pour ça qu'on est là. Ouais. C'est vrai que lorsqu'on a démarré, mon frère et moi, l'entreprise, une fois de plus, avait relativement peu de moyens, mais on s'est attaché de façon régulière à investir toujours au moins 10% dans la construction de cette marque, parce qu'au début, la marque était vraiment modeste, on va dire. Elle l'est toujours, hein, mais elle évoluait. Et c'est vraiment un travail de longue haleine. Ça fait quand même 30 ans qu'on met 10% dans le marketing pour supporter notre marque.
Je regardais un petit peu les chiffres, justement. Vous avez vendu 1 million de produits en 2018. Vous affichez une santé aujourd'hui qui est florissante, on peut le dire.
Oui,
parce que depuis plus de 10 ans, ça va bien. Il y a même des chiffres de croissance... À trois chiffres ?
Trois chiffres, non.
Non ?
Non, quand même pas. Non. Trois chiffres, non, deux chiffres,
c'est quoi,
oui.
C'est quoi la recette ?
La recette, c'est l'innovation, beaucoup. Et des valeurs aussi, hein, dans une entreprise. Vous savez, ce sont avant tout des équipes, ce sont animées. Des valeurs de proximité avec nos clients, avec nos salariés, avec tout le monde. Et puis l'innovation, que ce soit sur les montures, que ce soit, on fait aussi également, par exemple, beaucoup de lunettes enfants. Où on a fait une petite lunette bébé que vous connaissez peut-être, qui se retourne, qui peut se mettre dans les deux sens. Bon, par exemple, voilà, ce type d'innovation.
Vous fabriquez en France, mais aussi en Europe. Vous avez rapatrié quand vous avez repris.
Tout à fait. Quand on a démarré
la fabrication
au départ,
en Europe.
On fabriquait nos lunettes de glacier en France. Ensuite, on s'est développé grâce à l'Asie, il faut le dire. C'est grâce également à l'apport de ces produits qui venaient de Taïwan à l'époque. Et puis plus récemment, on a décidé de ralentir un petit peu l'Asie, d'ouvrir une usine de production en Roumanie.
Parce que c'est trop cher de tout produire ici en France pour l'instant.
Ah oui, là, on est dans une concurrence mondiale, comme on a dit. Et donc nos concurrents, plus personne ne fabrique en Europe, hein, quasiment. Et même nous, en fabriquant en Roumanie, on est vraiment parmi les seuls à faire ça. Donc tous les autres, c'est en Asie.
vos lunettes, demain ce seront des lunettes connectées, c'est ça l'avenir aussi ?
On travaille dessus. Je ne vais pas trop parler, mais on travaille dessus, effectivement. Je pense que dans les années qui viennent, on va sortir des choses dans ce sens.
Vous reviendrez nous en parler, bien sûr.
Volontiers.
Dans La France qui bouge. Merci d'être venu nous présenter. Merci. Jules Beau, c'est l'entreprise qui va bien. Merci.
Il est 13h45.
Europe 1.
Ils ont choisi de recycler leur tenue pour réduire la pollution. Elles deviennent un isolant. C'est la solution inventée par les pompiers du Berry. A tout de suite sur Europe 1.
Et on va retrouver Raphaël Duchemin et Elisabeth Assayac pour la suite de La France bouge. Et vous le savez, on aime bien terminer par la solution du jour, Raphaël.
Europe 1.
Aujourd'hui, Elisabeth, on va s'intéresser avec vous à une initiative berrichonne, unique en France. Ce sont les pompiers qui ont décidé de transformer leur uniforme usagé, leur tenue, en produit isolant. Racontez-nous.
Eh bien, chaque année, un sapeur-pompier utilise une tenue et c'est une tenue qui finit enterrée. Alors ainsi, les pompiers de l'Indre ont décidé de trouver une solution pour récupérer et transformer leur tenue d'intervention usagés. Comment ? Eh bien, en les recyclant, en les transformant en isolant, en panneaux isolants. Ces tenues sont transformées, recyclées en panneaux composés de fibres, hein, de fibres de tenue de sapeurs-pompiers, des fibres qui ne brûlent pas. Ça se transforme en plaques isolantes, tiens, par exemple pour des plafonds isolants contre le feu, notamment dans les transports, dans toutes sortes de moyens de transport, dans des voitures, dans des avions ou encore dans des sous-marins.
Bonjour Paul Malassigné.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous. Comment est-ce que vous est venue cette envie de transformer vos tenues de pompier ? Je l'ai là, hein, si vous nous suivez sur Europe 1, l'isolant, les tenues transformées en isolant justement.
Bah tout d'abord, merci pour votre invitation dans cette émission que j'apprécie beaucoup parce que elle est
fraîche.
On est ravis
de vous recevoir.
Et puis surtout, elle est précise et puis ça permet de parler un peu de choses techniques sans forcément les faire de manière très compliquée. L'idée, elle est simple, c'est que à l'issue d'un marché, nous sommes soumis à des marchés publics et nous nous sommes regroupés pour abaisser les coûts. Vous voyez, même les sapeurs-pompiers se regroupent entre départements pour baisser les coûts.
Et les coûts des tenues.
Les coûts des tenues, voilà, et puis avoir de la meilleure qualité. Donc les 7 départements de la région centre, 6 plus 1 pour être exact, nous sommes regroupés. À l'issue de ce marché, on s'est retrouvés confrontés à une problématique qui était simplement que les tenues usagées n'étaient plus reprises par le nouveau fournisseur. Donc il y avait ce dilemme. On aurait très bien pu les jeter au tout venant, mais ça m'aurait pas empêché de dormir, mais ça aurait un peu gâché de mon plaisir, vous voyez. Et c'est quelque chose qui m'a profondément gêné au fil du temps. Et donc, on a essayé de trouver une solution en se disant, bon sang, c'est une fibre qui est suffisamment technique, on va quand même pas l'enterrer, sachant que ça fait des quantités qui sont phénoménales. Simplement, pardon madame, allez-y.
Non, justement, les quantités.
Alors, les quantités, elles sont difficiles à évaluer, mais en gros, on peut dire qu'il y a entre 350 et 400 tonnes qui vont être enterrées chaque année. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut représenter en volume. C'est plus d'une dizaine de camions, si on les comprime. Donc, imaginez ce que l'on enterre chaque année. Et ça m'a paru vraiment gênant, parce que c'est quelque chose qu'on va laisser pour nos enfants. Et étant dans une position en m'occupant de la partie logistique chez les sapeurs-pompiers, ce qui est quelque chose d'important chez les sapeurs-pompiers pour permettre d'intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur l'ensemble du territoire, il y a une force logistique qui est importante, qui intervient même à l'international. Eh bien, étant dans cette partie-là, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose à faire. C'est pas possible qu'on enterre ça.
Alors concrètement, comment ça marche ? Vous utilisez des machines pour les transformer ? Vous avez fait quoi ?
Alors, l'originalité du projet, c'est la confiance que m'a accordé le président du conseil d'administration et le directeur en disant, bah, écoutez, faites appel au privé pour trouver des solutions. C'est-à-dire que le public s'est marié avec le privé pour trouver des solutions. Et ces privés, c'est des entreprises sociales et solidaires qui vont collecter nos déchets, qui vont les transférer vers l'outil industriel qui est en gros une machine énorme qui vous permet de les déchiqueter parce que la difficulté par rapport à d'autres textiles, c'est que les tenues de sapeurs-pompiers sont excessivement résistantes.
300 degrés, hein, c'est ça ? Ça résiste ?
Alors, ça résiste effectivement à plus de 300 degrés, mais c'est surtout la résistance mécanique. Quand on tire dessus, c'est beaucoup plus résistant qu'une tenue classique.
Laurent Chouin, le coach ?
Mais alors du coup, cette fibre est vendue ? Vous en bénéficiez en retour, c'est-à-dire que finalement vous ne portez pas que les coûts, tout ça. Est-ce que ça vous ramène quelque chose ?
Alors, c'est un peu la difficulté de l'économie circulaire. Le premier point, c'est que financièrement, il n'y a pas un retour direct. Le retour, c'est que ces tenues sont transformées en isolants. Et si vous voulez, à un moment donné, c'est poser la question que vous posez, tout à fait légitime, de dire « Bon, ben, d'accord, mais qu'est-ce qu'on en fait de cet isolant, les pompiers ? Vous êtes bien gentils, mais qu'est-ce qu'on en fait ?» Et là, le lien s'est fait en disant « Mais pourquoi ne pas le mettre dans les casernes ? Je vous ai dit que je m'occupais de logistique et donc de la construction des casernes de sapeurs-pompiers. Pourquoi ne pas le mettre à l'intérieur ? C'était la solution. » Et ainsi, on a bouclé cette boucle de l'économie circulaire.
Ça veut dire que ça revient finalement dans la caserne et ça vous est utile d'une autre manière. Est-ce que, et ce sera le mot de la fin, est-ce que vous comptez vous déployer ailleurs en France ? Est-ce qu'il y a d'autres pompiers qui vont suivre l'initiative ?
Alors, je le souhaite, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui, mais j'espère surtout que les industriels vont se servir de cette solution, vont la prendre, vont la piller, cette bonne idée, pour justement la déployer et la déployer dans d'autres domaines.
C'est la solution aujourd'hui. Merci d'être venu nous en parler. Merci à Laurent Chouin qui était notre coach aujourd'hui. Merci à vous, Elisabeth. On se retrouve demain.
Europe 1. C'était le meilleur de la France bouge avec vous, Raphaël Duchemin. Demain, gros plan sur le savon et le renouveau avec la tradition. Le secteur se remet en cause pour nous proposer des produits naturels et bons pour notre épiderme. Dans un instant, Christophe Ondelat nous racontera l'histoire de Anne Ratier. Il nous dira comment, il y a 30 ans, elle a donné la mort à son fils, né polyhandicapé et réduit à un état végétatif.